À portée de mot,
Jean-Paul Marqueschi.
Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de À portée de mots. J'ai le grand plaisir de vous recevoir, Jean-Paul Marqueschi, et bienvenue. Alors vous êtes peintre, sculpteur, les Toulousains qui prennent le métro, de la nouvelle ligne de métro depuis le mois de juin dernier, s'ils utilisent la station Carme, eh bien peuvent voyager dans votre univers puisque... Pour cette deuxième ligne de métro, c'est la deuxième, je crois, à Toulouse, la vingtaine de stations a été proposée à un artiste. Ce qui fait, c'est la deuxième fois que Toulouse fait cette proposition, qu'il y a 40 œuvres d'artistes contemporains qui représentent des courants très différents de la peinture d'aujourd'hui. Et Jean-Paul Marqueschi, vous avez donc imaginé cette immense voie lactée à la station Carme, 500 mètres carrés de peinture, de travail, des années de préparation. Et si je parle tout feu, tout flamme, c'est que le point de départ de votre travail, c'est la nuit, c'est le feu et c'est la lumière.
Oui, le mot Carme...
Ça a dû vous influencer, ça, avoir la station Carme.
Oui, bien sûr, on entend, c'est une sorte de... C'est un mot très riche, on peut entendre crâne, Carme, c'est la voûte des crânes. C'était le lieu, donc, c'était l'emplacement d'un carmel qui a été détruit. Et d'ailleurs, pendant les travaux, on découvrait des crânes, donc, dans la station où j'ai installé la Voie lactée. Et donc, le premier titre, d'ailleurs, de l'œuvre était « La nuit obscure ». Puisque, évidemment, on songeait immédiatement au plus illustre des Carmes, Jean de la Croix, sur lequel j'avais déjà beaucoup, beaucoup travaillé à l'occasion d'une œuvre qui avait duré une dizaine d'années, qui s'appelait « Les 11 minuits ».
Alors justement, ce travail, votre travail, et on va l'entendre aussi dans le programme musical que vous nous proposez aujourd'hui, Jean-Paul Marqueschi, c'est « On part toujours de la nuit ». On part pratiquement tout le temps du noir.
Oui, alors, est-ce que c'est le feu qui propose inévitablement le feu éclair ? Il serait tout à fait étrange, ce que d'ailleurs je fais, d'éclairer le jour. Probablement la flamme, qui est devenue l'unique pinceau dont j'extrais à la fois les figures, les non-figures, des corps... et les matières, les lumières, tout le chromatisme né de cet étrange pinceau, qui est mon pinceau depuis désormais bientôt 25 ans.
Mais comment s'est faite la rencontre avec cette flamme ? Parce que ce n'est pas un acte de hasard. Un jour, on ne décide pas de prendre une flamme, de prendre n'importe quel matériau pour le mettre en vie à partir d'une flamme. Et surtout, ça représente aussi le travail avec une très grande chaleur physique.
Oui, bien sûr. La chaleur est très importante. D'ailleurs, ça change du pinceau qui n'a aucune chaleur, pinceau habituel. Mais je crois que c'est quelque chose qui est... C'est une sorte de Prométhée à l'envers. C'est-à-dire, j'ai pas ravi la flamme, c'est la flamme qui m'a ravi. Et c'est un étrange ménage que nous formons depuis tant d'années, mais qui a à la fois quelque chose de violent, de retors, de rebelle, et en même temps d'aimable, et du fait de la chaleur. Parce qu'au fond, la preuve... comment savoir si nous sommes vivants ? Dans la nuit, la seule façon de savoir si le corps que nous touchons est vivant, c'est précisément la chaleur qui dégage. Et donc, il y a quelque chose dans la flamme qui réactive, qui réintensifie justement le vivant en nous.
Alors, on a un compositeur, et c'est le premier que vous avez choisi pour votre programme, Jean-Paul Marcheschi, qui a bien senti cette notion de flamme, c'est Scriabine, vers la flamme. Scriabine vers la flamme, interprété ici par Vladimir Horowitz. Alors, il est vrai, Jean-Paul Marcheschi, que tant les compositeurs que les peintres comme vous ont été fascinés par la représentation de cette flamme. Et on entend bien dans l'œuvre de Scriabine, hein, cela commence par vraiment, juste simplement, quasiment rien, puis le crépitement de la flamme qui prend vie, que l'on entend dans la transcription pour le piano.
Oui, on entend aussi les sombres battements. Il y a quelque chose qui évoque les deux polarités du feu, à la fois la clarté, une espèce de souffle d'or, puis le tremblement, mais aussi le noir, le négatif du feu. Et je trouve que c'est vraiment très très beau. Le titre est très très beau. Il y a assez peu, en tout cas musicalement, de tentatives de montrer le feu, hein, montrer ce corps difficile à saisir, que Léonard classait du côté des corps sans surface, tremblants. Ce sont d'ailleurs des défis pour les peintres aussi. En revanche, le feu, la flamme, a une immense descendance, enfin, du côté de la peinture, hein, innombrable.
Peinture et poésie d'ailleurs.
Hein. Et poésie.
En parallèle.
Évidemment. Et d'ailleurs philosophie, puisque je pense aux écrits merveilleux de Bachelard, qui sont de longues méditations rêveuses autour de la flamme.
Mais il faut le dire, Jean-Paul Marcheschi, dans votre œuvre, vous utilisez la flamme pour travailler sur tout support, mais vous ne jouez pas au jeu de la représentation de la flamme.
Il existe au commencement.
Ou parfois, oui.
Oui, il existe, oui, certes, puisqu'il y a, en effet, au commencement, d'ailleurs, autour des premières tentatives liées à la Divine Comédie, puisque Dante, c'est une métaphore très fréquente, hein, le corps comme flamme, eh bien, il y a des images, on peut dire, de la flamme, même si la flamme proteste continuellement contre l'image. Mais en effet, il y a dans la flamme quelque chose qui brise, qui creuse, qui perce, qui s'échappe toujours hors de l'image. J'aime beaucoup d'ailleurs cette double polarité de l'image. On est dans l'image et hors d'elle.
Alors justement, un autre compositeur qui a mis en image ce feu, cette lumière, avec des rythmes tout à fait différents de ceux de Scriabine que vous avez choisi, Jean-Paul Marcheschi. Il s'agit, et on en reparlera après, puisque vous aviez fait les décors pour ce ballet de L'Oiseau de feu de Stravinsky. L'apparition de l'oiseau de feu, extrait de l'oiseau de feu, donc d'Igor Stravinsky, interprété ici par l'orchestre de Chicago, dirigé par Pierre Boulez. Alors, cet oiseau de feu, Jean-Paul Marcheschi, vous avez réalisé les décors et les costumes pour le Théâtre National du Capitole de Toulouse. Vous êtes aussi un homme qui aimait les grands formats, puisque pour ce décor, il y avait quoi, 28 mètres d'ouverture à peu près sur 8 de haut. Vous aviez fait un travail autour de la carte des vents, 4,50 m sur 15 mètres. On parlait des 500 mètres carrés de la station de métro Carme à Toulouse, ou bien encore les 11 000 nuits qui représentent une œuvre de 4,20 m sur 40. Cette notion d'espace est indispensable pour la représentation de cet univers, malgré tout nocturne et en permanence en contraste avec la lumière.
Oui, d'ailleurs, je n'aime que les œuvres, au fond, qui sont un peu plus grandes que la taille humaine. J'aime beaucoup le caractère englobant, enfin.
À tel point que parfois, certaines de vos œuvres sont même reflétées dans de l'eau afin de pouvoir encore démultiplier la notion d'espace.
C'est ça. Et quand il arrive que j'installe des lacs qui, en effet, augmentent donc, la puissance, la présence, mais aussi ce qui, dans l'image, échappe à l'image, va dans ce sens-là. C'est une tentation qui est présente chez certains artistes, bien entendu. Donc, dans le cas de l'oiseau de feu, lorsque... c'est une réponse inévitablement monumentale, puisque les formats des théâtres, là, c'était le Capitole de Toulouse. Et lorsque Nicolas Joël, qui était directeur du Capitole, est venu me voir dans mon atelier, qui proposait imaginer le décor, c'est d'ailleurs pas un décor, puisque l'œuvre est une œuvre originale qui appartient à la ville de Toulouse, ou à travers le Capitole, c'est puisque j'ai refusé la transposition. Donc l'œuvre a été faite entièrement par moi. Elle est une œuvre qu'on peut voir de près.
On peut la voir où aujourd'hui ?
Elle est désormais, elle est quelque part, d'ailleurs je lance un appel, puisque je ne sais même pas où elle est. J'aimerais beaucoup que le nouveau directeur, puisque Nicolas Joël vient de quitter le Capitole...
Oui, puisqu'il va à l'Opéra de Paris,
de Paris. Oui, me dise où est cette œuvre, à laquelle je tiens beaucoup. Et voilà, j'aurais souhaité en effet qu'elle soit montrée, d'ailleurs, à l'occasion de la Voie lactée. Et donc, quand il est venu dans mon atelier, j'ai pris à la lettre le titre. Donc, l'oiseau de feu, donc, tout ce qui paraîtrait sur scène serait littéralement issu du feu. Tout. Donc, depuis les 40 costumes, donc j'ai tiré l'oiseau de feu, qui est une œuvre miraculeuse, enfin une sorte d'eau claire très très belle, mais dans laquelle on entend déjà les rythmes qui vont plus sauvages, plus âpres, qui vont venir assez tôt. L'œuvre est de 1912, et qui, d'ailleurs, avec un beau scandale,
amène le sac, oui.
Avec le sac du printemps. Donc, c'est un oiseau de feu que j'ai un petit peu tiré déjà, puisqu'il s'organisait, la scène se présentait comme une sorte de Stone Age, donc de pierre. C'était une scène plus violente, plus primitive que ce qu'on a l'habitude de montrer autour de l'oiseau de feu. Et voilà. Et donc, dans le cas, ce qu'on entendait à l'instant, c'est donc cette étrange situation, d'ailleurs, de l'image, du référent de chez Stravinsky. C'est à la fois très, très net, très présent. Il y a des figurations, peut-être pas de l'oiseau, mais de l'aile, du froissement de l'aile, quelque chose de furtif qui déchire l'espace sonore. Et donc, dans le cas de l'oiseau, c'était un costume qui, d'ailleurs, avait déclenché la haine de la danseuse, qui me détestait, puisque d'abord je l'avais masqué, et donc j'en avais fait littéralement un oiseau. J'avais donc utilisé des plumes de chouette polaire blanche, les chouettes Harfang, que j'avais doté d'un bec d'or. Et donc c'est un oiseau qui paraissait, mais qui paraissait avec des ailes immenses.
Oui, sur la photo, elle a l'air d'avoir des ailes qui font 2 mètres de large. Enfin,
c'est ça. Le tout faisait de diamètre environ 5 mètres.
Facile pour danser, hein, facile pour danser. Oui, oui, oui. Vous avez pensé à la pauvre danseuse?
Oui, mais enfin, elle oublie le sublime. Je crois qu'il faut souffrir un peu. Pour l'œil du spectateur, c'était très beau.
Alors, vous avez choisi à présent de nous faire entendre, et il faut en parler un petit peu avant parce que c'est du texte là qu'on va entendre, c'est Camano Bene.
Ah oui, alors c'est la voix miraculeusement belle, extraordinaire, géniale. C'est comme ça que j'entends Dante, c'est comme ça que je le lis. hein, Carmen Rubiné.
On va entendre un extrait de Dante.
De Dante, de la Divine Comédie. Et d'ailleurs, c'est un extrait qu'il a donné dans une arène de Vérone et qui avait donc eu un succès public colossal. Phénomène inimaginable. Il y a une sorte d'effet Madonna autour de Dante qu'on aimerait voir venir en France ou ailleurs.
Donc Carmen Rubiné qui donc nous lit un extrait de Dante.
Ed egli a me vedrai quando saranno più presso a noi e tu allor li priega per quello amor che in mena ed ei verranno. Si tosto come il vento a noi li piega mossi la voce o anime affannate venite a noi parlar s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido vegnum per l'aere, dal voler portate, cotali uscir dalla schiera ovedido, a noi venendo per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso. Noi, che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poc'hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi mentre che il vento come fa si tace. Siede la terra dove nata fui sulla marina, dove il Po discende per aver pace coi seguaci suvi. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor,
condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Voilà, donc c'est interprété.
Donc la voix de Carmelo Bene, hein, c'était en 1980, dans un théâtre à Bologne. Donc ça c'est l'enfer.
Oui, et c'est le chant merveilleux des pêcheurs de la chair. Là donc c'est Françoise de Rimini qui parle. Francesca da Rimini. Donc la position dedans, d'abord c'est une espèce de, peut-être des plus beaux chants d'amour qui soit. Et Dante ne condamne pas l'adultère, bien entendu, puisque c'est le chant où Dante s'évanouit. D'ailleurs, Dante ne cesse dans la Divine Comédie de rêver ou de s'évanouir. Pour un oui, pour un non. Et là, donc, devant le récit de cet adultère qui avait frappé l'époque, et visiblement, Dante prend parti, puisqu'il s'émeut. Non seulement il s'émeut, mais il y a ce vers illustre des plus beaux de tous les temps, où il dit, donc, et Cadi, qui achève le chant 5 que nous venons d'entendre, et qui dit, et Cadi, comme corpo morto cadde, et je tombais comme tombe un corps mort de douleur.
Mais Jean-Paul Marcheschi, la voix de Carmelo Bene que l'on vient d'entendre, elle est totalement musique là. Il est interprète, il chante pratiquement.
Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui, là, la musique de la voix, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. D'ailleurs, c'est très loin de ces voix relâchées, trop naturelles, enfin, qu'adoptent souvent les acteurs aujourd'hui au théâtre. Et au contraire, c'est une voix très rhétorique. On pourrait la juger peut-être grandiloquente, je ne le crois pas. C'est une voix au contraire profonde, construite. Cette voix sait ce qu'elle dit. C'est une voix extrêmement belle et musicale.
Un autre regard sur la Divine Comédie, cette fois-ci c'est le Purgatoire, mais on l'écoute d'abord.
Ricordi-tu la tort, c'est mai là la paix. Ti colse nebbia per la quale
Oh,
Paul Poletti et ses camarades dans cet extrait donc de la Divine Comédie de Dante. Et là, nous sommes au purgatoire, Jean-Paul Marcheschi. Alors, c'est intéressant d'entendre ces voix corses qui se sont appropriées ce texte.
C'était un texte extrêmement familier, n'est-ce pas, c'est dans la culture la plus profonde de la Corse. Il y a d'ailleurs une société à Bastia, très ancienne, puisque je suis né à Bastia, et qui s'appelle la société Dante Alighieri, n'est-ce pas ? Donc, en Corse, c'est un des livres les plus lus, probablement depuis toujours. Il ne faut pas oublier la présence franciscaine, dominicaine en Corse, qui est très très importante. Ce qui m'émeut là, d'abord, on sort de l'enfer, on est dans le monde clair. Au fond, Dante, le purgatoire, c'est toutes les beautés de la terre. Mais là, ce qui pour moi est émouvant, c'est la réconciliation de la langue maternelle. Ma mère qui m'écoute d'ailleurs à ce moment, à Bastia, est toscane. Pour moi, très important, pour ma vie, pour ma culture, ma peinture, c'est capital.
L'Italie est une source d'inspiration pour vous, oui. Jean-Paul.
Beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus interne, plus organique, si vous voulez, parce que c'est la langue littéralement maternelle, que j'ai évidemment après approfondie, faisant des études, parallèles aux arts plastiques, d'italien, j'ai une thèse d'ailleurs liée aux années 50, 60, début de l'arte povera. Donc ça réconcilie à la fois la langue maternelle, tout ce que ma mère a introduit dans ma nuit, et la Corse, donc cette terre qui est la terre vers laquelle d'ailleurs tous mes rêves me ramènent. Il y a une incroyable d'ailleurs permanence, insistance donc du côté de la vallée où tout le versant paternel, le côté paternel du Cap Corse, non, donc duquel d'ailleurs on aperçoit ce que je vois de ma fenêtre que j'ai peint si souvent, l'île d'Elbe, les îles. Donc l'île d'Elbe, Capraia, et par jour de très beau temps, quand l'air est très pur. D'ailleurs, dans ce qu'on a entendu, c'est une vision de montagne, n'est-ce pas ? Dans ce chant merveilleusement interprété par Jean-Paul Poletti, par jour de temps clair, on aperçoit la côte toscane.
Vous voulez rester encore un petit peu en Corse, Jean-Paul Marcheschi ?
Oui.
Piazza.
Vous écoutez France Musique à portée de mots. Mon invité aujourd'hui, le peintre Jean-Paul Marcheschi. Alors, nous venons d'entendre des polyphonies corses interprétées ici par Jules Bernardini, Philippe Vesperini et André Ciavaldani. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu exactement, Jean-Paul Marcheschi?
Bon, d'abord, je veux dire, pour moi, c'est vraiment très beau, c'est très émouvant, c'est le lieu des larmes. Donc, c'est pour moi quelque chose dont j'ai beaucoup de mal à parler, d'ailleurs. Donc, il s'agit d'une padiella. C'est la forme la plus archaïque, d'ailleurs, et probablement la plus ancienne. Donc, c'est une polyphonie très, très élémentaire, mais extrêmement raffinée. Donc, ça vient de padio, hein, ça veut dire la paire. Bizarrement, il y a trois voix. Probablement, à l'origine, on devait avoir seulement deux voix. C'est très émouvant, dans la mesure où c'est le père d'un ami qu'on entend. Donc c'est Jules Bernardini, qui est le père de Jean-François et Bernardini, qui sont donc les belles voix de ce groupe illustre des Mouvrini. Ça, c'est très, très émouvant. C'est pour moi la voix ancienne. C'est une voix qui me permet c'est de faire revenir, justement, de retrouver un temps et d'entendre ce temps concrètement, de faire entendre les voix qui ont disparu. Là, encore une fois, comme pour Carmelo Bene, on ne parle plus comme ça. Je le regrette beaucoup. On entend une voix très profonde, enfin très, très, très belle. Une voix, d'ailleurs, au fond, à la fois traversée, entaillée. Hein, d'ailleurs, le titre est extrêmement beau, Taglio. Hein, donc, ça porte le nom du lieu, Taglio Isulaccia. C'est un nom magnifique. Donc, c'est une sorte d'entaille introduite dans la voix qui laisse entrer l'air, le paysage. Une sorte de mélange à la fois de nature. Et à moi, bon, ça fait apparaître le paysage.
Mais alors, l'entaille, justement, l'entaille, c'est votre outil de travail, le feu. Le feu entaille. Il entaille le bois, il entaille le papier, il entaille le tissu.
Oui, le feu entaille le beau pays de France, le beau pays de Corse, le beau pays de Toscane. Le feu est très menaçant. C'est une image, c'est un outil paradoxal, hein, c'est à la fois un outil qui réchauffe dans les nuits d'hiver. Je vis dans un atelier sans fenêtre, et donc il y a quelque chose d'aimable, mais il y a aussi quelque chose de redoutable dans le feu. Et en effet, mais j'aime beaucoup le mot entaille, et même ce mot qui est lié à la joaillerie, qui est le mot entaille. Donc là, il y a quelque chose qui s'approche de taglio, hein, donc entaille. Et en effet, entailler, c'est quelque chose qui décrit ma peinture. On est loin de la peinture, ce que Léonard appelle, nous allons y revenir, la via di porre, c'est-à-dire, il dit que la peinture est la voie qui consiste à déposer des matières. Donc, il y a un mouvement très doux. Dans mon cas, c'est beaucoup plus que qui qualifierait la sculpture. Donc, je peins, mais je sculpte beaucoup plus que je ne peins. Donc, j'entaille.
Alors, justement, entailler, sculpture, c'est peut-être les mots qu'on peut utiliser pour la voix que l'on va entendre maintenant.
Thank you. la puerta con tu madre, tu madre para tu todo.
En la puerta con tu madre, interprété par Telemoto avec à la guitare Manuel Morao. Alors, vous me disiez en écoutant ce disque, Jean-Paul Marcheschi, que vous peignez comme lui chante. Ça veut dire, est-ce que vous peignez avec la même rage et avec cette même urgence ?
Non, c'est moi qu'on vient d'entendre. C'est exactement ma voix. C'est moi qui interprète. C'est bien d'interpréter cette boulerie. C'est moi. Et ma peinture, en effet, ne fait que ça.
C'est-à-dire ?
Il y a quelque chose qui a peut-être à voir, en effet. C'est à la fois, il faut revenir à la technique retorse mystérieuse, très exigeante du chant flamenco, et qui est, comme pour le chant corse d'ailleurs, qui n'est pas sans rapport, il y a à la fois des contraintes très grandes, et qui visent à remonter, d'ailleurs de remonter à l'intérieur du corps, c'est-à-dire de faire vibrer. On entend vibrer les cavités internes du corps au point que la voix semble s'échapper hors d'elle-même. Elle quitte d'ailleurs le genre. On ne sait plus si on a une voix mâle ou bien femelle. Et la voix remonte les millénaires.
Mais votre flamme
remonte les millénaires.
Mais c'est votre corps qui est en feu lorsque vous êtes... Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent au cours d'émission, vous êtes peintre, Jean-Paul Marcheschi. Pas de pinceau, pas de peinture. C'est à la flamme que vous travaillez, tous les matériaux possibles et imaginables. Donc c'est votre corps qui est flamme lorsque vous êtes à l'atelier.
Oui, d'ailleurs, je n'ai plus de corps. Mon corps a été entièrement consumé par, d'ailleurs, et toute appartenance terrestre ou humaine, chez moi, a disparu.
Et pourtant, je vous vois bien là, vous êtes bien là, vous êtes bien en face de moi.
Ce que vous voyez, une pure âme, donc totalement délivrée des contraintes du corps.
Alors,
le feu a tout emporté.
Donc, justement, le feu tout emporté.
On est très libre dans ces situations-là.
Ça permet d'aller où l'on veut.
On est dans le feu follet, d'ailleurs, feu follet, comme des feux follets. Feu follet, c'est une sorte, on ne sait pas trop ce que veut dire, au fond, la technique du douane, n'est-ce pas ? Mais on traduit quelquefois par feu follet. Voilà.
Le corps est absent, mais l'œuvre se construit.
Oui. Dans ce cas précis du chant flamenco, il y a quelque chose qui est vraiment en rapport avec une phrase des plus énigmatiques qui a changé le cours de ma vie. Et il faut rappeler juste une anecdote très rapidement. On est en 1922 à Grenade. Lorca, que j'aime beaucoup, et Faya, ont organisé la première, au fond, réhabilitation, enfin écoute, réintroduction à la mémoire commune de ce qui était un peu oublié, enfin mis de côté, voire méprisé, c'est-à-dire le flamenco. Après, donc le soir du premier jour, en étant dans le Carmen, c'est-à-dire Carmen, c'est une ferme, donc le Carmen de Faya dans la nuit, et donc tous les cantaors sont là, Lorca est là, et Faya, au cœur de la nuit, interprète donc une version piano des Nuits dans le Jardin d'Espagne. Et donc, le Manuel Thor, un des plus merveilleux, et Terremoto en est véritablement le descendant, cantaor, est là, et à un moment, s'avance vers Faya et dit « Maître, ce soir, vous avez eu le duende. » Et Faya dit « Le duende ? Qu'est-ce que c'est le duende ?» Et il a cette phrase stupéfiante, le duende, c'est faire remonter dans la voix le buste, lui dit le tronco, du pharaon noir. Il faut se débrouiller avec ça. De ça, j'ai fait une exposition entière, le pharaon noir.
Thank you.
le début du Stabat Mater de Pergolèse, interprété ici par Iliana Cotrubas, Lucia Valentini Tarani, I Solesti Venetti, dirigé par Claudio Simone, Jean-Paul Marcheschi. Donc là, on retrouve cette Italie dont on parlait tout à l'heure. Et malheureusement, tu es obligé d'avancer un peu vite. Là, on va mettre en miroir, justement, avec l'œuvre qui suivra après. Il s'agit d'un extrait de Moïse et Aaron de Schoenberg. Et dans les deux, là, il y a une filiation.
Oui, alors, j'ai peut-être fait ce collage pour réagir. Lorsque j'ai demandé à Philippe Hersant, cet ami...
Notre ami compositeur et producteur à France Musique.
Oui, je demandais des conseils sur, justement, les différents Stabat Mater. Et je évoquais prudemment, je lui ai dit, enfin, est-ce que tu crois que... C'est très connu, mais c'est quelque chose qui m'aime beaucoup, c'est Naples, enfin. Est-ce que je pourrais passer le Stabat Mater de Pergolèse? Il a eu cette phrase, « Oh là là, mais ça c'est un shampoing pour lavage fréquent. » Je trouve ça très drôle. Donc, en effet, c'est une œuvre célébrissime, usée jusqu'à la corde à force d'être aimée. Il n'en est pas moins un chef-d'œuvre, ce Stabat Mater-là. Hein, c'est une œuvre tragique, enfin, il est mort à 26 ans. C'est une œuvre absolument merveilleuse. Donc, le Stabat Mater sera peut-être aux yeux, aux oreilles de certains
oui.
puristes par Schoenberg. Et d'ailleurs, le lien évidemment est colossal, est absolument un contraste total, mais ce qui les relie, c'est la nuit. L'opéra de Schoenberg, qui pour moi est un opéra absolument miraculeux d'intelligence, de beauté musicale, mais aussi génial du fait du livret écrit par Schoenberg. Mais revenons une seconde à Naples, enfin à la. Et surtout.
Il y a le feu aussi, il y a le feu, il y a Venise, il y a le feu de Naples, il y a le feu de Schoenberg, le feu est présent.
Et oui, c'est le langage de Dieu, n'est-ce pas? Dieu ne s'exprime qu'en lettres de feu. Donc ça, c'est tout à fait. C'est extrêmement important. Mais revenons simplement sur le Stabat Mater, qui est donc ce qu'on appelle en peinture, un passage. Donc la déposition, hein, le déposto. C'est très littéralement le moment où on décroche le corps mort du Christ. Et c'est comme le poème de Jacopo Agnatod, il le dit, c'est la douleur de la mère. Donc, le christianisme accueille, ce qui me semble, et à travers ses peintres, au fond, le christianisme ne s'occupe pas tellement d'art, mais les peintres, du catholicisme, du christianisme, eux, s'en occupent beaucoup, et l'immense succès du Stabat Mater. Donc, dans sa version picturale, on en a, par exemple, un exemple au Louvre, c'est peut-être le plus beau des tableaux du Louvre, c'est la déposition du Rosseau, n'est-ce pas, où l'on voit, d'ailleurs, le Rosseau, c'est une sorte d'autoportrait, hein, dans les bras de éploré de la mer, tableau éblouissant, puisqu'on est dans une espèce de liberté de la touche, comme ça, très dissonante, très libre, et on est dans l'espace du tombeau.
Et là, c'est la nuit et c'est le feu, donc extrait de Moïse Aaron de Schoenberg.
Aaron, was hast du getan? Meine Aufgabe war, wenn dein Gedanke kein Wort, kein Wort, kein Bild erfahr, von ihm entzogen, ihren Augen ein Wunder zu tun. So fessen geheiß, wie immer, ich hörte die Stimme in mir. Ich habe nicht gesprochen, aber ich habe dennoch verstanden. Schweig!
Voilà, c'était tout juste une petite bouffée donc de ce Moïse Aaron de Schoenberg dirigé par Pierre Boulez. Vous avez choisi de terminer ce programme, Jean-Paul Marcheschi, avec votre dernier ouvrage quelque part. Hein. Il s'agit d'un miroir entre Varèse Nocturne et votre Voie lactée. C'est donc, je rappelle, la station de métro Carme à Toulouse que vous avez réalisé, 500 mètres carrés. De feu et de lumière. Alors, nous écoutons Jacques Varèse sous nos paroles. Juste deux mots, parce que malheureusement, cette émission est quasiment terminée. La Voie lactée, c'était indispensable pour vous?
Oui, c'était un voyage qui a duré très très longtemps. D'ailleurs, pour justifier d'un mot simplement le choix musical, le rapport Varèse-Schoenberg, c'est cette phrase écrite d'ailleurs qui reprend celle du Décalogue par Schoenberg, le « tu ne te feras point d'image ». C'est exactement la question centrale qui occupe les peintres, c'est-à-dire comment faire une image qui soit une image de liberté. qui ne soit pas une image sidérante pour le visiteur, qui ne soit pas une image qui accapare, qui soit donc une image très critique par rapport à notre image contemporaine, notamment cet assaut d'images photographiques et autres, qui sont des images qui ne laissent aucune place pour la pensée. C'est un peu l'expérience, j'espère en tout cas, très physique, très sensible, très spatiale, qu'évoque la traversée de la Voie lactée dans la station Carme à Toulouse, justement.
Merci finalement d'avoir accepté cette invitation, Jean-Paul Marcheschi. Merci beaucoup. Vous pourrez voir ce travail donc au métro tous les jours à Lyon, à la galerie Domino Strè, à partir du 17 janvier prochain. Et puis un livre qui va se sortir sur l'art et le métro de Toulouse, direction François Barré, avec tous les artistes qui ont travaillé pour cette nouvelle ligne de métro. Et puis un dernier, très très vite, Jean-Paul Marcheschi, Nocturne, avec une préface de Renaud Camus, sortie chez Paul.